j'étais de... J'aimais bien me reposer parfois en regardant des films espionnage ou des films, je sais pas, c'est les films d'action, c'est les films de mission. Et Véro et moi, on aime un peu ce même genre. On regardait le film sur le Blackbird, le SR-771, où l'espion DB faufiltrait dans le hangar de l'ennemi, s'accaparer de l'avion furtif, mettre en marche les réacteurs et partir. Tout allait bien, malgré la pluie arrosée par de l'ennemi, il entre, il met en marche les réacteurs, il part. Il vole à basse altitude, s'en semble bien partir quand il est pris en chasse par un avion ennemi. Et c'est là où, par les manœuvres excellentes de ce pilote chevronné, qu'on voit la manœuvrabilité de cet avion, sa valeur, mais l'ennemi gagne. Et c'est là où j'avais plus de cassettes. Et je ne connaissais pas la fin. Et depuis des années, ça me chatouillait, ça me taquinait, Oh, comment ça s'est sauté? Est-ce que vous avez regardé le match de rugby ce week-end à part Mike? Quelqu'un avoue qu'il a bien regardé les matchs? Oui? Non? Un petit peu? Est-ce que vous savez qui a gagné?
Oui.
Oui? Non? Certains, oui. Et nous les chrétiens? Est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire? Qui gagne? Les chrétiens de l'époque de l'apôtre Jean étaient pourchassés par Domitien, l'empereur, qui s'est pris très au sérieux comme l'empereur. Il n'y avait pas d'autre seigneur sauf lui. Il s'était donné ce titre. Et quand on l'appelait Jésus-Christ Seigneur, il s'en est pris aux chrétiens. Il a envoyé les troupes saccager leur maison. Et si on se trouvait au coin du carrefour, quand l'empereur passait et vous étiez chrétien, à vous, vous ne vous agenouillez pas, on vous embarquait tout de suite. C'était un moment difficile. C'était un moment où on mettait pression sur les chrétiens pour abdiquer, pour abandonner leur foi. Et nous aussi, parfois, on peut mettre pression sur nous de délaisser sa foi, de ne pas assister à l'église. TF1, à la fin de l'année passée, au mois de décembre, une semaine avant Noël, faisait un reportage sur les chrétiens, la secte évangélique. De temps en temps, on essuie des tirs. On aime décourager. Et si vous avez des amis ou vous savent que vous êtes chrétien, votre famille, votre entourage, votre école ou votre milieu de travail, ils peuvent essayer de vous décourager, parfois d'une manière subtile, mais parfois aussi des façons pour vous freiner dans votre carrière à cause de vos valeurs, à cause de votre prise de position. Vous n'êtes pas seul à l'époque du Nouveau Testament. C'était difficile. Il n'y avait que Jean, quand il écrit, le seul disciple de Jésus-Christ, le seul apôtre qui reste en vie. Les autres ont été déjà tués par les morts violentes. Et Jean seul reste exilé sur une île, Patmos, pour travailler comme vieillard, qui avait peut-être 80 ans, à travailler dans une mine. Et le diable croyait le faire taire, comme il a voulu faire taire et tuer en tuant les apôtres. Mais ça ne marche pas. Les apôtres ont scellé par leur mort leur parole, l'annonce de leur évangile, qui était donc incontournable, qui mourrait pour une fable, à moins qu'ils oseraient croire, à moins qu'ils croiraient vraiment. Jean, exilé, écrit Apocalypse. Et dans son mine de charbon, il trouve le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui parle et qui lui révèle tout qui va se passer. Il lui révèle la fin. Et au lieu de trouver que les chrétiens sont découragés, sapés, on trouve plutôt qu'il y a un Dieu qui est sur le trône, le vrai, le véritable Seigneur, pas un homme. C'est Jésus-Christ. Et c'est là, en lisant la fin de l'histoire, que nous pouvons prendre courage. Savoir pour qui il faut crier les hurrahs, les All Blacks, les Bleus, et aussi pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et de ne pas nous laisser détourner, dissuader par les pressions de ce monde ou de cette vie. Et si le diable essaie de vous mettre au placard, vous coincez, rappelez-nous que c'est là où la voix des apôtres était plus éloquente après la mort et que la voix de l'apôtre Jean crie de son mine de charbon par le livre d'Apocalypse. Prenons courage. Nous, en tant que chrétiens, nous devons tenir ferme dans notre foi. Et en nous tournant vers la fin, j'aimerais nous révéler ou nous voir ce qui est révélé comme l'issue de notre foi, le résultat de nous qui devons tenir ferme comme témoin de Jésus-Christ. Dans un monde qui veut faire taire, dans un monde qui peut essayer aussi de nuire à votre vie, où le malheur aussi pourrait se prendre à vous. Tournez avec moi, s'il vous plaît, à l'Apocalypse, chapitre 1. L'Apocalypse est la révélation de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux, de ce qui concerne Dieu ou Jésus-Christ ou la fin des temps que nous, on ne peut comprendre que quand Dieu nous le révèle. Et nous verrons quelques principes pour nous aider en tant que chrétiens à tenir ferme, à mener bien notre vie jusqu'à la fin, afin que Jésus-Christ, on entre dans son royaume, en reconnaissant qui il est, comme parce qu'il se révèle à nous. Dans les premiers trois versets, les trois premiers versets, au chapitre 1, nous lisons au troisième verset, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui se trouve écrit, car le temps est proche. » C'est vrai que c'est un livre parfois mystérieux, l'Apocalypse, parfois on parle des scènes apocalyptiques, dévastateurs. Mais ici, il y a une bénédiction pour ceux qui lisent et qui comprennent. Et déjà, cette bénédiction, depuis la première page, le troisième verset, nous est offerte. Une bénédiction de bonheur parce que le temps est proche. Jésus-Christ est déjà venu, le Messie, l'histoire a basculé. Il y en a ceux qui font déjà partie du royaume de Dieu et d'autres qui n'entreront. Le temps sera scellé et la fin des temps est proche et l'avenir va s'ouvrir pour toute l'éternité. Et quand ça s'ouvre, il n'y aura plus de retour, plus de deuxième chance. Il n'y a que l'entrée et le temps est si proche que Jean nous le dit. Heureux, vous qui lisez, qui comprenez ces temps. Quelle est cette bénédiction ? Nous le comprenons que c'est un encouragement pour les chrétiens qui sont persécutés ou qui ont des difficultés. Et si c'est le cas que nous essuyons des difficultés à cause de notre foi, nous sommes heureux. Parce que nous avons une victoire que nous allons découvrir en Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort qui va se présenter dans quelques instants dans ces versets. Nous avons aussi donc un Christ qui vient auprès de nous, qui est victorieux, qui nous aime, qui agit pour notre bien, qui est puissant. à demeurer ferme donc, à ne pas perdre courage, sachant que le temps est proche, sachant que la victoire et l'issue est déjà de l'autre côté. Bénédiction donc au verset 3. Les versets 4 et 8, Jean se présente à nous comme celui qui est le témoin fidèle, le serviteur, verset 1 déjà, ce qu'il a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qui fait connaître par l'envoi de son ange en son serviteur Jean. Et le verset 5b que nous avons lu, même le verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, les sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes ses serviteurs. Dieu se présente comme celui qui est, qui était et qui viendra. Celui qui soutient, celui qui est éternel. Et quand tout passe, les diplômes, les promotions, les vacances ensoleillées, et tout est mis devant le Dieu éternel, glorieux, resplendissant, pour l'éternité. Les différences de niveau sera infime, pas utile, pas passable, percevable, pardon. Devant ce Dieu qui est et que nous sommes là pour l'éternité, devant ce Dieu, nous qui sommes ses serviteurs, nous avons un privilège, une identité qui est merveilleuse, de lui appartenir, déjà, et pour l'éternité. De le connaître. Ce mot serviteur est renforcé par le fait que nous sommes aussi des témoins, comme Jean, comme Jésus, de dire aux autres ce que nous savons, ce que nous expérimentons, ce que nous connaissons de Jésus-Christ. Regardez le verset 5. À celui qui nous aime, il nous rend des serviteurs parce qu'il nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous sommes transférés du royaume des ténèbres, du péché, à son royaume, de Dieu vrai, véritable, vivant. Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Posons un instant, méditons un instant sur ces mots. Qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ce Dieu qui est sur le trône, ce Dieu qui est tout-puissant, il vient se pencher vers nous par son Fils. Il a touché nos cœurs. Et par son sang, il nous a lavés pour faire de nous, il nous a choisis pour être ses serviteurs, un royaume. Entre Dieu et les autres êtres, qui sont encore dans leur faute, nous sommes placés comme des intermédiaires, qui parlons à Dieu pour eux et qui par nos vies parlons à Dieu, à ces personnes qui ne nous connaissent pas, qui ont l'âme prisonnière et qui sont loin encore de Dieu. Dieu, par son sang, nous a rachetés pour nous associer donc à cette victoire immense et éternelle de son Fils Jésus-Christ. Afin que nous soyons capables, par son amour, il est écrit, d'aimer les autres, qui sont parfois des enquiquineurs, des persécuteurs, des gens qui oppriment cette parole. Mais il nous donne ce rôle et cette responsabilité pour parler et pour témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Donc nous sommes ces sacrificateurs qui intercèdent entre Dieu Tout-Puissant et l'éternité et ces âmes qui sont là. Et chers frères et sœurs, nous avons un rôle qui est incomparable dans l'univers, dans l'histoire, et face adieu et face aux hommes dans l'importance qui va se jouer pour leur éternité. Il nous a fait des sacrificateurs. Un sacrificateur est celui qui vient se présenter à Dieu pour les hommes, pour les êtres. Il nous donne ce rôle pour intervenir, pour prier, pour intercéder, pour parler, pour vivre. Et quand il nous regarde, il voit Jésus-Christ. Il voit, nous sommes l'Apocalypse, nous sommes la révélation de Dieu pour eux. Pour que Dieu, il se révèle à eux dans leurs ténèbres. Et quelque part, ce rôle élevé dans l'univers, Dieu qui est, il nous le donne. Et ça me fait trembler, ça me fait me réjouir, et ça me fait prier. Et je prie et je supplie que je sois un meilleur témoin de Jésus-Christ. Que je sois apte et capable de dire aux autres qui il est par ma vie. Et je prie pour que Jésus-Christ, que je me revêtisse de sa personne. Pour parler, pour agir, pour prier. Et aussi à intercéder. Et c'est fatigant parfois. Nos vies sont déjà ballottées. Nous sommes parfois mis à l'épreuve, cuisinés. Et après, Jésus-Christ nous demande d'être là, dans la brèche, entre le ciel et l'enfer. Dans ce milieu terre, le milieu, pour prier, pour intercéder, même quand on est fatigué, même quand on est mis à l'épreuve, même quand il y a des gens qui persécutent, il nous donne ce rôle unique dans toute l'histoire de ces âmes pour représenter Dieu. Et chers frères et sœurs, je vous supplie d'assumer, d'accepter ce rôle. Bien que parfois nous soyons fatigués, ballottés, mais reconnaissons, acceptons cette première révélation de notre rôle, de qui nous sommes, de ce rôle qui nous est donné par Jésus-Christ. Afin donc que nous menions à bien notre rôle, notre mission, pour le bien des autres. Et moi, je reconnais que je ne suis pas à la hauteur de parler pour Jésus-Christ. Je reconnais que c'est très difficile de rester suspendu devant eux. Mais que Dieu nous donne cette grâce. Regardons plus loin. Pour Dieu son Père, à lui la gloire. Voici qui vient avec les nuées. Tout homme le verra. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui et l'alpha. En Apocalypse 1, le verset 8. Et l'oméga, c'est celui qui est le Tout-Puissant. C'est celui qui m'aime pour se donner à moi. Il m'aime, il nous aime autant. Par son sang, nous sommes rachetés. Il va aussi nous aimer pour nous permettre de rester là. Devant les autres pour témoigner de Jésus-Christ, de son salut, de son amour. Aussi, pour les autres, il est tout puissant. Car il a dit ce matin, dans notre faiblesse, il peut se glorifier. C'est pas nous. Nous sommes comme des vases de terre qui parlons d'un trésor qui est Jésus-Christ, pas nous, pas moi. Je ne parle pas de moi-même. Je dois présenter Jésus-Christ. Pas ma vie, pas ma parole, pas mes prières. Mais lui, il est tout puissant et il peut se servir de nous. Si nous restons là, nous assumons notre place à prier par sa puissance, par sa grâce pour les amis, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, à lui être leur témoin. De trois, nous sommes aussi, si nous acceptons ce rôle, qui est parfois difficile, ce qui est intéressant, c'est que Jean, il se révèle comme celui qui est emprisonné, verset 9, Je prends part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus. Il prend part. Il ne s'est pas détourné. Que Jésus-Christ nous donne cette même hardiesse, courage, pour représenter Jésus-Christ dans les milieux même où nous serons poussés à l'extrême. Je reconnais que nous pouvons être persécutés. Mais acceptons avec courage, prenons part à la gloire, mais aussi à la tribulation, à la royauté et à la persévérance qui est en Jésus-Christ. Et quand Jean s'identifie comme celui qui est là, sur l'île de Patmos, il a cette vision de Jésus-Christ, où le ciel s'ouvre et il se présente comme Étienne, le premier martyr, ou face aux Juifs qui le lapident. Quand c'était le moment de se tourner vers les païens, et l'apôtre Paul, en semence, était Saul à l'époque, tient les manteaux pour qu'on puisse bien dégainer, bien lancer sur Étienne. Il voit le ciel ouvert, et il voit Jésus-Christ debout. Debout pour Étienne, le premier martyr. Et Étienne le dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ici, Jean qui est dans l'exil, dans la martyre, il a encore cette vision qui lui est révélée. Je me retourne à verset 12. La voix qui me parlait, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, verset 20, qui sont révélés comme les églises. Et au milieu des chandeliers, au milieu de notre église, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, créature énigmatique de Daniel, retrouvé sur les lèvres de Jésus-Christ, le fils de l'homme, quelqu'un qui est homme, mais aussi qui représente l'Éternel. Il était vêtu d'une longue robe, portait une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine, blanches comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semble rougi au four. Sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort et pose sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. Et quelque part, le Christ, il marche au milieu de nous. C'est son Église. Par son esprit, par sa présence, par son sang, il nous a rachetés, mais il ne nous a pas délaissés. Il est là. Et il marche au milieu de cette Église à plaisir. Il marche. Qui est-il? Et pour ceux qui s'engagent, pour ceux qui sont avec lui, pour ceux qui témoignent, il se tourne. Et quand je le vis, je tombais à pied. Il s'est présenté avec sa dignité, des cheveux blancs, avec sa ceinture boucle d'or, comme le sacrificateur qui tient avec les pierres précieuses, les noms distribués sur la poitrine de Jésus-Christ, j'estime qu'il prie pour nous, parce qu'il est écrit dans les cieux, qu'il prie pour nous. Et ses pieds, comme du bronze, prêts pour une bataille, et de sa bouche sortait une épée. Et sa voix était comme les eaux. Les grands eaux. Et quelque part, Jésus a dit, le même Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il avait dit ça à Matthieu. Car je suis humble de cœur. C'est le même Jésus qui prend Jean sur l'île de Patmos dans son exil et qui se révèle à lui et qui se présente comme celui qui est glorieux. Comme celui qui a tout pouvoir, comme celui qui jugera. Et où que nous soyons dans notre marche avec le Seigneur, quelle que soit notre situation spirituelle, en nous engageant comme témoins pour Jésus-Christ, pour en parler aux autres, pour prier pour d'autres, pour servir pour que d'autres changent et entrent et découvrent ce personnage merveilleux de Jésus-Christ, qui s'est donné par amour pour nous, par son sang. que Jésus-Christ se rapproche de vous, qui nous aime, qui se rapproche, qui se présente à nous. Il connaît nos besoins. Et quand on essaie de nous coincer, de nous mettre en placard, de nous effacer, de nous faire taire, c'est là où Jésus-Christ est venu. Et il s'est présenté comme celui qui est incontournable. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et moi aussi, vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le même Jésus qui est mort chez Bédé de nous. C'est le même Jésus qui nous connaît, connaît nos cœurs, qui connaît notre situation. Je vous prie d'accepter notre situation de chrétien, de témoin de Jésus-Christ. Dans un temps qui est parfois difficile, où les gens parfois veulent nous faire taire, veulent ridiculiser, veulent faire de sorte que on tue, on exile. Et il se peut bien, parce que nous verrons que dans les chapitres qui viennent, que cette pression va en montant, ira de plus en plus forte. Parce qu'il y aura une bataille, une dernière, entre le vaincu et le vainqueur. Et celui qui est vaincu ne veut pas lâcher facilement prise sur les armes. Il sait parce qu'il est vaincu. Mais il veut faire taire. Il veut exiler. Il veut minimiser. Il veut décourager. Il veut fatiguer. Et Jean, sur son île, écrit, et où que vous soyez, le Seigneur vous a placé là comme un témoin de Jésus-Christ, pour révéler, pour être la révélation de Jésus. Et que verrons-nous? Nous verrons des épreuves. Vous aurez peur à la tribulation, à la royauté et à la persévérance. Et les hommes vont vous regarder dans ces situations. Qui est Jésus-Christ à travers de vous? Et quand on est fatigué, et quand on ne voit pas, quand on se sent comme un vieillard exilé, que Jésus-Christ se révèle, qu'on attend. Parce qu'il marche au milieu de nous. Et qu'il se présente avec sa force, avec la gloire. Un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous passerons de l'autre côté de cette voile. Un jour, nous verrons celui qui a ses yeux qui pénètre, cette voix qui tranche. Que nous dira-t-il de comment nous menons notre vie? De ce rôle qu'il nous a laissé comme témoin de Jésus-Christ, comme serviteur, pour parler aux perdus, aux condamnés. De par son amour, de nous approprier de sa force, de son amour, pour parler, pour vivre, pour intercéder, pour prier. Et il sait que ce n'est pas facile. Et Jean, quand il le vit, il tomba à ses pieds comme mort. Et c'est là, à ses pieds, où le Christ pose sa main droite sur lui. Il lui dit, ne crains pas. Moi, je suis le dernier, le premier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Histoire, notre expérience d'être tombé à pied, d'être relevé dans ce rôle unique de sacrificateur, d'un royaume de prêtres qui intercèdent pour d'autres âmes qui sont perdues, qui se perdent. Le temps est proche, Nous ne savons pas quand la porte va se fermer. Acceptons donc notre rôle pour permettre que Jésus-Christ lui-même agisse en nous par sa force, par son amour, pour assumer ce rôle qui est digne. Nous servons un Dieu qui est digne et qui est. Et permettons que ses yeux nous pénètrent pour nous préparer, pour le voir face à face. Permettons que sa voix nous parle comme une voix forte, comme une épée qui doit trancher le péché dans ma vie, dans notre vie. Afin que lui-même nous soit prêt. Et grâce à nous, grâce à nos efforts, grâce à notre lutte, à notre part, à la tribulation, à la royauté, et à la souffrance, et à la persévérance, que nous entrions, pas bout d'œil, mais avec des armes, face à Jésus-Christ, qui est seul, et face à Dieu, qui est seul, qui sera. Seigneur notre Dieu, donne-nous la grâce d'entendre, d'écouter ta parole, les oreilles spirituelles, les yeux, ouvre nos yeux, pour te voir tel que tu es, vraiment, véritablement. Permets que nous puissions être saisis par toi-même, par ta grâce, par ton amour. Toi, tu nous as déjà délivrés. Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, si nous avons entendu sa voix, si nous avons compris qu'il s'est donné pour nous à la croix, par son sang, nous sommes déjà pardonnés, rachetés. Et c'est lui qui nous place entre Dieu éternel, entre le ciel et entre l'enfer quelque part, pour les âmes autour de nous. Je te prie, Père, pour ta grâce, pour chacune de nos vies, pour chacun de nous, que tu nous donnes la grâce et la force de tenir, d'être là où tu nous as placés. Et une grâce que quand les yeux nous regardent, ils observent Jésus-Christ dans sa puissance, dans sa force, pour que lui-même, il agisse pour nous. Et que ainsi, tu nous donnes la grâce d'être le témoin fidèle de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle de ce que lui, il a vécu, ce que lui, il sait. C'est dans son nom que nous avons entendu ses paroles et que nous te prions. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer, de dire un petit bonjour. Prions pour Lily. Certaines personnes ont eu l'occasion de la voir cette semaine. Jérôme, est-ce que tu as pu la voir? Tu veux nous donner un petit...
Oui, j'ai vu Lily hier. Elle a un bon moral. Et elle a demandé à ce que l'Église puisse prier pour qu'il dorme et de la compassion pour elle. Bon, sa fille est venue lui rendre la visite aussi. Et elle a accepté...
Elle était aplasie, pas trop affaiblie.
Quand je suis arrivé, elle était allongée sur son lit. Il faut mettre le masque avant.
Oui. Merci en tout cas. Merci à ceux qui ont téléphoné et d'autres personnes qui ont prié pour elle. C'est notre sœur Lily qui était souffrante depuis février dernier. De la leucémie et qui est mère d'une petite, un bébé de 9 mois peut-être. Donc nous prions pour elle et pour sa famille, donc prier pour Lily. Conseil, jeudi le 13, ici à l'église, à partir de 19h, pour voir et mettre en place les dernières touches pour la rentrée. La cellule de jeunes parents, ou en tout cas on va se revoir, pas ce vendredi, mais le vendredi suivant, en cause de l'emploi du travail de Marcel et Laurent qui travaille un vendredi sur deux. Donc pas ce vendredi, mais le vendredi suivant, nous allons nous retrouver. donc ça c'est pour les jeunes parents. La prière, le jeudi 20, pas ce jeudi, mais le jeudi qui vient après, à 19h à l'église. Alpha, qui commencera. Est-ce que tu peux me rendre un petit service de distribuer, je pense. Le 26 septembre, ici par un petit banquet, peut-être je vous montrerai. Ici à l'église, c'est tout simplement un banquet pour ouvrir, pour inviter des amis, et nous discuterons avec eux sur la foi chrétienne et ce qu'est la foi. Donc c'est aussi une occasion de faire des amis. On ne discutera pas que sur la foi, c'est pour aussi sur la vie, mais c'est une occasion avec gentillesse et convivialité d'inviter, de discuter, d'apprendre les bases de la foi. Ici, à l'église, le 26 septembre. Et donc, invité, ou si vous voulez venir, pour être présent, pour discuter, pour animer, pour faire des amis avec ceux que Dieu appelle, là où Dieu y travaille. Et ça prend l'occasion, entre amis, de discuter, de se retrouver. Calendrier des activités sera donné et présente donc dimanche prochain. Un petit bonjour, donc saluez-vous les uns les autres, et bonne rentrée, content de vous retrouver, et bon dimanche. Merci.